L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
À suivre sur BFM Business dans cet atelier numérique comme chaque samedi. La rédaction de 0net.com pour jeter un œil sur toute l'actualité high-tech de cette semaine. Notre dossier de l'atelier US tout à l'heure, on découvrira que être une femme entrepreneur aux États-Unis, eh bien, non seulement c'est possible, mais en plus, on peut devenir pionnière de la Silicon Valley. On va en parler dans quelques instants. Et puis notre French Tech Tour aussi, dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet avec Lila Megrawa et notre invité. On va parler d'innovation à la française et surtout évoquer le génie français qui n'est pas mort.
Mais tout à fait. Alors pour en parler, on a Jean-Baptiste Vallet en studio. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Alors Jean-Baptiste Vallet, vous êtes à la fois consultant en stratégie digitale et vous avez également écrit un opus intitulé « Le génie français n'est pas mort » aux éditions du Cherche Midi. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de génie français ?
Très simple. Eh bien, on a un écrivain du XVIIIe siècle qui s'appelle Voltaire, qui a écrit un essai qui s'appelle « L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations ». Et il caractérise et il personnifie l'esprit des Français. Et il dit qu'en gros, bah, selon les nations, la nation allemande, la nation anglaise, la nation française, eh bien, il va y avoir des mœurs et des manières d'être spécifiques. Et en l'occurrence, pour la France, j'imagine que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est spécifique à la France. Mmh. Ce qui est spécifique à la France, c'est la créativité.
D'accord. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Est-ce que c'est une réaction au French bashing qu'on s'auto-infligerait ?
Alors il y a une histoire. Vous avez le temps pour une histoire ?
Mais oui, ouais, on a le temps, bien sûr. Bon, si c'est une bonne histoire, on a
c'est
tout le temps.
C'est une belle histoire. Bon, c'est une vraie histoire. Alors. Je suis parti aux États-Unis, à Boston, donner des cours. Et puis j'ai repris l'avion du retour et en arrivant sur à Charles de Gaulle, j'ai vu qu'il y avait des écrans avec des gens qui étaient tout rouges et très en colère. C'était en fait des Français qui perdaient leur emploi. Et je me suis dit, ben, j'ai deux options. Mmh. Ou bien je vais faire mon métier dans la stratégie digitale aux États-Unis et je laisse la société française comme elle est.
Et je tourne la page.
Et je tourne la page. Mmh. Ou bien j'essaye d'apporter ma petite contribution. Et ben j'ai choisi la deuxième solution.
D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est une belle histoire.
Alors voilà. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement essayer d'expliquer aux Français qu'il faut pas qu'ils aient peur, parce qu'il y a tout en France. Il y a des ressources naturelles, il y a des ressources financières, il y a des ressources humaines, il y a des capacités, on veut-tu en voilà, même autour de cette table, surtout autour de cette table, et aussi derrière le poste. Bref, il y a plein de choses à créer, il y a plein de créateurs géniaux, et le livre, Le génie français n'est pas mort, c'est de montrer des gens, donc 15 portraits, de Français qui créent le futur dans 20 ans. Et des gens qui vont transformer non seulement la vie des autres Français, mais la vie du monde entier.
Donc c'est plein d'optimisme tout
c'est
ça.
C'est 100% optimiste. 100%. D'accord. Si je peux envoyer ce message, un message plein d'optimisme pour les Français. L'objectif à moi, c'est très simple, parce que je suis aussi pédagogue, c'est de parler aux jeunes et de leur insuffler l'idée d'oser, de créer, d'inventer. Parce que on peut être un bac moins 19 et créer une nouvelle fenêtre, par exemple.
Sûr.
Et réussir à vendre. On peut être boulanger et créer un nouveau gâteau. On peut être, évidemment, un super scientifique, bac plus 47 et puis créer des nouvelles centrales nucléaires. Mais on peut inventer. Et ça, c'est donné à tout le monde. Et c'est donc, il faut qu'on arrive à exploiter ce message.
Mais est-ce que les nouvelles technologies, l'Internet, etc., permet peut-être à tout le monde de créer et d'inventer, alors qu'avant c'était peut-être plus compliqué.
François, vous avez tout à fait raison, c'est l'objet de mon message, c'est de dire, le jeune homme qui est à Carcassonne, qui se trouve en échec scolaire, mais lui aussi il peut créer, il a juste à comprendre quelque chose, c'est le monde dans lequel il vit. Et ce monde, c'est deux points. Le premier point, c'est le monde digital, donc apprendre à programmer, apprendre à surfer sur Internet. Le deuxième point, c'est déjà, on interagit aujourd'hui avec différentes langues, et il faut qu'il soit rassuré, parce que demain, les langues arabes, les langues africaines, les langues chinoises et autres, ce sont des langues qui vont nous permettre de commercer. Donc en fait, tout est ouvert pour les jeunes Français d'aujourd'hui.
Ah, justement, vous enjoignez à une forme d'ambition collective à la française. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Est-ce que c'est envisageable à l'heure de la mondialisation ?
Alors vous allez penser, et certainement les gens derrière notre poste ont pensé que on est dans un monde individuel. Mais en fait, la vraie question qui se pose, c'est où est le projet collectif ? Parce que nous tous autour de la table, mais aussi ceux qui nous écoutent, si on nous offre une mission, si on nous offre des perspectives, c'est sûr qu'on va vouloir avancer ensemble. Mmh. La question qui se pose, c'est où sont les perspectives? Et là, pour le coup, c'est ce que je raconte un petit peu dans le livre. Il y a un problème de la part des gens qui émettent des messages. Parce que ce sont des messages, justement, qui ne favorisent pas une mission collective. Moi, ce que je crois profondément, on a la France, c'est le 18e, le 19e et le début du 20e siècle. À ce moment-là, il y avait un message qui passait parfaitement, c'était le message de progrès. Et pourquoi est-ce qu'on croirait pas au progrès? Et pourquoi est-ce qu'on croirait pas au progrès technologique? Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à repousser la mortalité? Pourquoi est-ce qu'on se dirait pas, voilà, dans les 100 ans à venir, on va encore repousser la mortalité, puis en plus, on va rendre les gens plus heureux?
Mais est-ce qu'on n'est pas finalement, hein, peut-être aussi à la fin d'un cycle de notre société, non?
Et c'est fort probable. Et justement, ce que je propose à l'intérieur de la...
Même au niveau politique.
Enfin, tout à fait.
Voilà,
tout à fait d'accord avec vous, François. Ce qu'on va dire à l'intérieur de la conclusion, c'est justement, attention, Rousseau avait écrit le contrat social au XVIIIe siècle, attention, on n'est pas à l'abri d'avoir la nécessité d'un nouveau contrat social. Nouveau contrat social parce qu'on va vivre plus longtemps, parce que le travail va complètement se transformer, et puis parce que l'arrivée des robots va changer aussi notre mode de fonctionnement. Aujourd'hui, il y a une étude de Roland Berger qui dit que, voilà, à l'horizon 2020, 3 millions de métiers vont disparaître. Et ça, c'est pour la société française. Alors, bien sûr, on n'est pas des pitiés. On ne sait pas si ça sera 3 millions, 2 millions, 1 million. On est sûr de quelque chose. Mmh. C'est qu'on a un déficit de robots en France, que les Américains, les Chinois, les Japonais, les Anglais travaillent sur la robotique. Et nous aussi, on est très bons en robotique, notamment en intelligence artificielle. Il y a de grandes chances.
Oui, parce que quand vous dites 3 millions, bon, alors effectivement, il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont être créés,
oui,
qui vont être inventés. Peut-être pas 3 millions, c'est ça le problème.
Certainement pas 3 millions, mais néanmoins, ce que je veux faire passer comme ça, c'est qu'il y a plein d'opportunités à saisir. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien évidemment, il va y avoir des métiers qui vont se transformer, mais on aura de nouveaux métiers qui vont être créés, notamment dans l'environnement, par exemple, notamment dans l'intelligence artificielle, notamment dans le suivi des personnes âgées. Là, il y a des viviers extraordinaires.
On parlait beaucoup de, on parle aujourd'hui encore d'exception culturelle française. Au 19e, vous l'avez évoqué, il y avait une forme d'évangélisme, d'évangélisation à la culture, ouais. La langue française. Est-ce que quelque part ce que vous prenez, ce serait une forme d'exception innovatrice française?
Non, moi ce que je dis, c'est que on a eu dans l'histoire de France un moment donné où la France croyait en elle. 1820, 1915, la France croit en elle. On construit une tour Eiffel qui ne sert à rien, juste à montrer le progrès. D'accord?
Et qu'on devait détruire juste après.
Qu'est-ce qui se passe depuis 1915? Alors oui, 1915, 1945, en gros, moi, ce que j'analyse, c'est une dépression de la France. Mais pour autant, on a le troisième plus grand réseau diplomatique. Mmh. On a encore des films. On a des musiques qui font danser, enfin, on a des musiciens qui font danser la planète entière. Le problème qu'on a, c'est qu'on a des politiques qui n'arrivent pas à fédérer les cultures. Quand on regarde aux États-Unis, on a un Obama qui se fait élire en 2007 sur un programme culturel. C'est pas America's Back, c'est Yes We Can. Yes We Can avec Beyoncé qui danse. Quand on regarde l'Angleterre des années 97 avec Tony Blair, on a un type qui est jeune et qui va prendre la Britpop et qui va en faire quelque chose avec une idée culturelle. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on a des gens qui veulent pas être discriminants. Comme ils veulent pas être discriminants, ils veulent pas créer de culture. Comme ils veulent pas créer de culture, il y a pas de terreau, de ciment commun. Et c'est un petit souci.
Alors, votre livre est un ensemble de portraits d'entrepreneurs. Il y en a certains qu'on a eu le plaisir de recevoir, comme Rendindi.
J'étais avec lui tout à l'heure, justement. Je lui ai dit que je venais. Il m'a dit qu'il vous connaissait bien. Je le salue d'ailleurs au passage. Oui, on a 15 entrepreneurs, donc je vais quand même vous donner un petit peu les typologies de personnages qu'on a dessinés. Parce qu'en gros, l'idée de ce livre, c'est de créer, de packager des personnes qui créent pour donner envie. Simplement en lisant, comme on lirait un livre normal, on va lire des profils et des histoires de vie qui les ont amenés à la création. Donc on a Rendindi qui est en train de créer le nouveau Google. Vous avez Patrick Couvreur qui est un médecin spécialisé dans nanomédicaments, qui est un type génial. Vous avez Bertin Naoum qui a créé le robot chirurgical. Vous avez César Arada qui crée des drones marins. Vous avez Cédric Maillard qui a qui a créé le LIFI, donc l'Internet de la Lumière. Vous avez Emmanuel Arène qui a créé Primo Indé, qui est en gros une structure qui met du RFID à l'intérieur des vêtements. Enfin, bref, vous avez 15 créateurs. Vous avez Yannick Aleno, le grand chef, qui lui est en train de révolutionner. Parce que la culture, c'est aussi la gastronomie, c'est pas simplement la technologie. Hein. Voilà ce qu'on a à l'intérieur du livre. Et puis, vous avez des grands témoins comme Jacques Séguéla, comme Pascal Lamy, comme Muriel Pénicaud, comme Nicolas Dufour qui dirige ABPI, qui sont là pour nous éclairer sur de quoi on aurait besoin pour que le génie français se déploie dans les années à venir.
Vous citez l'exemple en début du livre de Paris-Saclay. Paris-Saclay, qui est une espèce de plateau en région parisienne, qui est une espèce de foyer réunissant à la fois chercheurs, entrepreneurs, entreprises. Est-ce que quelque part la solution ne serait pas dans
création
la
de cluster.
Multiplication exactement de ces lieux,
de ces viviers en quelque sorte.
Ce que je dis, c'est le premier chapitre. Ce que je dis, c'est que le problème, c'est qu'on a des infrastructures qui n'ont pas été créées pour favoriser l'innovation, et donc je me propose une vingtaine de mesures pour favoriser l'émergence de talents, l'émergence d'entreprises en France. Et parmi celles-ci, vous savez, donc j'interagis pas mal avec Boston aux États-Unis, parmi celles-ci, il y a la création de clusters.
Très bien. Donc, dans les kiosques, un livre à se procurer.
Dans les librairies.
Oui, parce que dans les kiosques, il y en a pas beaucoup. Il y en a parfois, mais des bouquins, mais pas beaucoup, c'est vrai. Plutôt dans les librairies.
Et il y a aussi un site internet qui s'appelle geniefrançais.fr, parce que l'idée, c'est de quoi? C'est simplement ce livre est une étincelle. Mm-hmm. Ce que je voudrais, c'est que cette étincelle, il y a des gens qui participent. Parce que sans vous, le génie français, c'est pas grand chose.
Le génie français n'est pas mort, paru aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Baptiste Vallée. Merci. Lila, on va revenir dans un instant pour la suite de cet atelier. Vous restez là. Le dossier de l'atelier UAS et puis notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, nous irons à Dublin pour notre World Tour. Et puis après, direction la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi. Mais dans l'immédiat, c'est notre dossier de l'atelier US. Et avec Pauline Cantner, on va s'intéresser à une femme entrepreneur qui est aux États-Unis, qui est aussi une pionnière de la Silicon Valley, Pauline.
Marie-Hélène Delbourg-Delphis, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une serial entrepreneuse. Vous êtes arrivée dans la vallée en 1987 pour travailler sur un produit Macintosh qui vous a ensuite conduit à développer plusieurs projets de start-up. Vous êtes aussi passée de l'autre côté du miroir en quelque sorte en étant stratégique consultante, aussi en faisant du mentoring auprès de start-up. Ce qui nous conduit aujourd'hui à vous interviewer sur votre expérience de plus de 25 ans sur la vallée. Donc dans un premier temps, par rapport à il y a 25 ou 30 ans, est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de monter une entreprise que ça ne l'était auparavant ?
En fait, moi je n'ai jamais considéré qu'il était difficile de monter une entreprise, que ce soit en France ou aux États-Unis. Quand j'ai créé ma première boîte en France, en fait, je m'en suis même pas vraiment rendu compte. Ce n'est pas difficile de créer une entreprise, quel que soit le pays. En tout cas, en France, c'est relativement facile, et aux États-Unis aussi.
Est-ce que être français, ça influe en quelque sorte sur la bonne ou mauvaise réalisation d'une entreprise?
Non, certainement pas maintenant. À l'époque où j'ai créé ma première entreprise aux États-Unis, probablement oui, parce qu'il y avait très très peu de Français qui avaient créé des entreprises, et encore moins de femmes, bien sûr. Donc, j'avais quelque chose, les caractéristiques d'un animal assez rare, de venir de France, d'être à l'époque habillé très fashion, et de commencer une boîte de technologie, en particulier de la base de données. Donc, c'était complètement inhabituel. Depuis la fin des années 80, la Silicon Valley a elle-même énormément évolué. Et alors que le monde de San Francisco était relativement provincial et très américain, en fait, à la fin des années 80, il est devenu complètement cosmopolite. Donc, qu'on soit français, indien, chinois, brésilien, espagnol, albanais, n'a absolument aucune espèce d'importance, à mon sens. Et ce qu'il y a d'intéressant et d'utile pour les Français, c'est que, en fait, les Américains qui habitent dans la Silicon Valley, qui sont peut-être maintenant, en fait, les Américains natifs, citoyens depuis longtemps, sont relativement rares, en fait, sont en sous-nombre, en réalité, maintenant. Donc, l'accent n'est plus un problème comme il l'était encore il y a 25 ans.
Une autre question aujourd'hui, est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières qu'un entrepreneur doit avoir pour faire avancer son projet quand il arrive dans la vallée, ou disons une carte qu'il doit absolument avoir dans son jeu ou des cartes à avoir dans son jeu?
Je ne sais pas si un entrepreneur doit avoir vraiment des cartes ou une carte dans son jeu. La réalité, c'est que quand on arrive dans la Silicon Valley, on doit surtout avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y a autant, il y a un nombre gigantesque de gens aussi intelligents que ce qu'on est. Peut-être la première chose à savoir, c'est que l'intelligence est la chose la mieux partagée. Et donc, probablement, un Français qui arrive dans la Silicon Valley doit apprendre l'humilité et se dire que son idée géniale qu'il a développée à Montluçon peut avoir été développée n'importe où dans le monde. Parce qu'il est rare quand même qu'on soit le seul à avoir une bonne idée. Et en fait, quand on est le seul à avoir une bonne idée, il est probable que l'idée n'est pas si bonne que ça. Okay. Donc la première chose à apprendre, c'est l'humilité. La deuxième chose à apprendre, c'est que la concurrence est tellement importante qu'il est quand même préférable d'avoir un très bon produit, de savoir exactement ce qu'on fait, donc d'être assez avancé dans le développement du produit et avoir en fait déjà des clients qui valident l'utilisation du produit. En un sens, pour un étranger, la barre est peut-être un petit peu plus haute. Et la barre peut être un peu plus haute parce que quand on arrive comme Français dans la vallée, on n'a pas tout à fait le réseau social des écoles américaines qui fait que on a toutes sortes de supports. Donc il y a maintenant des supports des réseaux français ou francophiles, mais ce sont énormément développés au cours des dernières années, ils n'ont pas le poids de Stanford. Ou bien quand on a fait Polytechnique, bon, c'est une école fabuleuse, bien connue en France, mais il faut quand même quelquefois expliquer ce que c'est que Polytechnique, et à plus forte raison l'école normale supérieure dont je sors. Donc il faut se rendre compte qu'on est tout petit, qu'il faut arriver avec une conscience de l'humilité, avec un produit, avec une validation de son produit, et puis prendre son bâton de pèlerin. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'installer dans l'idée qu'on est déjà arrivé. Il faut toujours penser à recommencer à zéro. Il faut travailler beaucoup à son américain et s'assurer qu'on a une interface de communication impeccable.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène Delbourg-Delfis, et merci encore de votre témoignage.
Pauline, merci, et de retour dans notre studio à Paris. Cela dit, pas pour longtemps, puisqu'avec Aurore Géraud, nous allons partir pour notre World Tour du côté de Dublin à l'occasion du Web Summit.
Oui, on décolle et on va rejoindre Mathieu Gorge, qui est CEO de Vigitrust. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Alors, on voulait parler un petit peu du Web Summit. On a vu un peu partout que l'année prochaine, il délocalisait, qu'il ne restait pas à Dublin. Alors, on voulait savoir, est-ce qu'il y a une fuite des cerveaux, une fuite des talents, selon vous, Mathieu?
Alors, d'abord, il y a des choses à prendre en compte. Cette année, le Web Summit va atteindre son summum, entre guillemets, dans le sens où ils attendent 30 000 personnes, alors que l'an dernier, il y en avait, je crois, 22 000 ou 24 000. Mmh. Donc, il y a eu un grand push pour faire venir les gens. Ils s'en vont pour des raisons opérationnelles aussi bien que pour des raisons stratégiques. Au niveau de la fuite des cerveaux et des talents depuis l'Irlande, on voit que depuis déjà quelques années, depuis la récession, en fait, les Irlandais ont recommencé à partir pour aller en particulier vers l'Angleterre, vers les États-Unis et vers l'Australie. Ceci étant dit, cette fuite de talents est en fait compensée par une montée de personnes qui viennent s'installer en Irlande, notamment venant d'Europe, notamment des Français aussi d'ailleurs, qui commencent des entreprises, en particulier dans le domaine de l'informatique, du marketing digital et de tout ce qui est transformation digitale à partir de Dublin. Donc c'est quand même à noter, c'est pas une fuite complète, je pense pas qu'il faille complètement associer le déplacement du Web Summit avec une fuite des cerveaux depuis l'Irlande.
Un documentaire a été tourné qui s'appelle Better Off Abroad sur les start-upers irlandais qui sont installés à la Silicon Valley. Dedans, il y a une fondatrice et la fondatrice et CEO de Vidyad qui s'appelle Grain Baron, si je me trompe pas, explique que pour se lancer, Dublin c'est vraiment une ville géniale, mais que pour le développement, il faut partir. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation ?
Alors, je suis plutôt d'accord avec son analyse, effectivement. Se lancer à Dublin, c'est assez facile. Les procédures pour ouvrir une entreprise sont beaucoup plus légères qu'en France, par exemple. Et puis, pour avoir des aides financières de l'État, quand on est une toute petite entreprise, c'est assez facile. On peut avoir des aides de la ville, par exemple, de la ville de Dublin, puis après des aides à partir d'Enterprise Ireland quand on exporte. Ceci étant dit, le marché irlandais est un petit marché, c'est un marché de moins de 5 millions d'habitants, donc même en ayant une solution, une solution informatique qui est fantastique sur le marché, c'est un petit marché, donc c'est un marché d'export, et c'est un marché que, par exemple, l'ambassadeur de France en Irlande appelle un marché de rebond. Donc on vient s'installer en Irlande pour pouvoir exporter vers d'autres pays anglo-saxons, en particulier vers les États-Unis, où il y a ce fameux concept de la diaspora irlandaise, où plus de la moitié des Irlandais, des Américains se disent d'origine irlandaise à un niveau ou à un autre. Et donc effectivement, on voit que pour se développer, il faut aller vers l'étranger. Le marché irlandais lui-même n'est pas assez grand pour grandir énormément, et c'est un pays d'export en fait.
C'est partir, mais est-ce que c'est partir pour mieux revenir, peut-être ?
Alors, les Irlandais reviennent régulièrement, mais ils ne reviennent pas forcément s'installer. En tout cas, d'un point de vue business, ils ne reviennent pas forcément s'installer, installer leur QG en Irlande. Mm-hmm. Ceux qui le font pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons opérationnelles, dans le sens où l'Irlande est un pays très cosmopolite. On a beaucoup de personnes, c'est multilingue, c'est le pays du call center. Donc, ça a une valeur ajoutée de revenir en Irlande pour ce genre d'opération. Mm-hmm. Mais ils ne reviennent pas forcément toujours pour s'installer pour de bon.
Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un manque de reconnaissance ? Vous parliez tout à l'heure du gouvernement, des aides. Il me semble qu'il y a eu des petits soucis ces derniers temps, parce qu'on attendait beaucoup en fait de propositions faites au département des finances qui n'ont pas été retenues, notamment sur le régime fiscal. Est-ce qu'il y a vraiment un blocage de ce côté-là ?
Alors, il y a un blocage. Le régime fiscal irlandais reste quand même un régime assez propice au développement. Ceci étant dit, les changements qui avaient été demandés étaient notamment des changements par rapport à la vente des entreprises, sur ce qu'on appelle les capital gains. Donc ça n'a pas été accepté. Et effectivement, il y a un danger pour l'Irlande que certaines entreprises qui sont prêtes à être vendues ou absorbées dans un groupe plus grand finissent en fait à se délocaliser juste avant d'être vendues pour éviter ce régime fiscal, par exemple en déplaçant leur QG de Dublin à Belfast, qui d'une façon opérationnelle n'est pas forcément un gros problème, mais en allant au régime anglais, qui lui est beaucoup plus propice à la vente des entreprises. Donc effectivement, toutes les propositions qui avaient été faites n'ont pas été retenues, et on s'attendait à un peu plus de volonté du gouvernement.
Très bien, mais merci beaucoup.
Merci Mathieu Gorge, CEO de Vigitrust.
Voilà, depuis Dublin. Et on revient dans un instant pour la suite et la fin de cet atelier. Direction la rédaction de Zeronet.com, et puis entre autres, ça sera l'alphabet du numérique de Lila Megrawa et le crash test d'Antoine Cyr. Pour terminer, on reviendra sur la journée du stress en Angleterre. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants, mais auparavant, c'est votre dose d'actualité hebdomadaire avec évidemment le site zeronet.com, premier site d'actualité high-tech en France, et Eric Le Bourlou, comme chaque samedi, est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour.
Rédacteur en chef donc du pôle actu de 01net, avec du Google, de l'Apple, du Twitter, du Facebook cette semaine, on prend les mêmes et on commence, mais c'est vrai qu'il y a une actualité quand même assez chargée du côté de ces monstres américains, et on commence par Google, qui a l'air assez mécontent de ses téléphones qu'il commercialise avec sa propre marque Nexus, visiblement.
Bah écoutez, oui, on peut imaginer qu'en tout cas ils sont pas très satisfaits de comment on tourne les choses, puisqu'on sait que Google commercialise des téléphones sous sa marque Nexus, mais ce n'est pas Google qui les fabrique. Enfin, Google ne fabrique rien, il laisse ça à des gens comme Huawei, comme LG, qui eux-mêmes fabriquent les téléphones.
À qui ils donnent évidemment un cahier des charges.
Voilà, un cahier des charges précis.
Cahier des charges est respecté par les constructeurs.
Mais apparemment, Google voudrait aller un cran plus loin. Google voudrait en fait, pourquoi pas, concevoir, on a appris là que Google voudrait concevoir ses propres puces, ses propres processeurs. Comme le fait Apple, hein. Apple, on sait que sur les iPhones, ce sont des puces qui sont designées par Apple, pas fabriquées par Apple, mais designées par Apple, et donc qui répondent mieux au cahier des charges qu'Apple a besoin pour son OS.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en gros.
Exactement.
Hein. C'est ça.
Et on peut se demander si Google n'a pas envie de suivre ce chemin, c'est-à-dire celui qu'Apple a choisi, c'est-à-dire d'à la fois faire le logiciel Android, mais
ça,
aussi
ils savent faire, ils le font bien,
ils le font très bien, mais aussi pourquoi pas s'intéresser de plus en plus au matériel. Bah, là, c'est vrai que pour l'instant Google avait dit bah voilà, on a Android, tout le monde peut l'utiliser, et puis ça a eu le succès qu'on connaît. Android aujourd'hui c'est la première plateforme mondiale d'OS mobile. Le seul petit problème c'est que c'est très fragmenté. Vous avez des Android en fait qui sont très différents selon que vous ayez un Samsung, un LG, un OnePlus. Tout ça c'est des versions d'Android qui sont un peu différentes, et finalement il n'y a pas un Android, il y en a plein. Et peut-être que Google a envie que ça change. Il a aussi eu envie que ça change via ses Nexus. Hein. Pour Google, ses télésmartphones Nexus, c'était du pur Android, ce que Google imaginait comme Android. Mais on voit, et puis là, on a encore testé un Nexus cette semaine à 01net. On voit que ces smartphones-là sont pas super excitants finalement.
Ouais, et puis ils sont chers surtout.
Ils sont chers. Alors qu'avant ils étaient pas chers, au moins c'était l'avantage. Maintenant ils sont chers, et puis ils sont pas au niveau du design de ce que fait par exemple Samsung, ou de ce que font même d'autres de ces marques qui les commercialisent, ou même Apple évidemment. Donc, on a appris aujourd'hui, cette semaine, effectivement, que Google pourrait faire ses propres puces. Peut-être le premier départ vers une plus grande verticalité chez Google, qui pourrait à la fois commercialiser donc Android et le matériel qui va avec. Et c'est en fait quelque chose qui est très à la mode, hein, puisque Apple a réussi grâce à ça. Hein. C'est pour ça,
évidemment.
Ça fait partie du grand succès d'Apple. Et Microsoft le suit depuis quelques temps. Maintenant, Microsoft, qui commercialisait avant juste un OS, commercialise maintenant du hardware, du matériel avec Surface notamment.
Voilà, et puis même des téléphones portables avec le rachat de Nokia et des Lumia. Hein. Donc, à suivre. Hein.
C'est très intéressant.
Ça peut changer la donne.
Exactement. On pourrait voir ça d'ailleurs dès peut-être l'année prochaine, à la prochaine conf développeur Google.
Voilà. Et qu'en pensent les partenaires concurrents hein, de tout ça?
C'est toujours le grand problème.
Les
ça,
Samsung, les LG, les Sony, etc.
Il est possible que ça les fastique un peu.
Un petit peu. Après Google, place à Apple maintenant, avec des rumeurs persistantes qui sont arrivées cette semaine, dont vous avez fait le relais sur 01net.com. Il semblerait qu'Apple n'attende pas la rentrée prochaine pour sortir de nouveaux iPhones, Eric.
Eh oui, Apple pourrait accélérer un petit peu sur les iPhones. En fait, là, on a donc eu l'iPhone 6S à la rentrée, il n'y a pas longtemps. Et Apple pourrait, là, au début d'année prochaine, selon effectivement des rumeurs qui sont relayées par un analyste assez connu dans le monde Apple, qui a vu juste à plusieurs reprises, pourrait sortir un nouvel iPhone, mais qui serait pas l'iPhone 7 cette fois, qui serait un iPhone plus petit, avec un écran plus petit, qui s'appellerait pourquoi pas le 6C. Apple avait déjà lancé un iPhone 5C qui était l'entrée de gamme de l'iPhone 5. Et
qui n'avait pas le prix de l'entrée de gamme en revanche.
qui était un peu moins cher.
Qui était un petit peu moins cher.
Un petit peu moins cher.
C'est vrai.
Mais voilà. Et effectivement, il pourrait sortir, ou du moins être présenté en début d'année prochaine. Pourquoi Apple fait ça? Parce que voilà, Apple effectivement, c'est le leader sur l'haut de gamme. Ils font des marges incroyables sur leurs téléphones. Ils en rendent beaucoup. Mais par contre, en volume, ils sont pas aussi forts que certains du monde Android. Comme on en parlait il y a quelques instants, c'est vrai qu'Android a tendance à grignoter un peu ses parts de marché, notamment parce que Android fait des téléphones, les fabricants d'Android font des téléphones moins chers.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens achètent ces téléphones un peu moins chers, milieu de gamme, qui font finalement très bien, qui font très bien le job. Quoi.
Alors parce qu'aujourd'hui, le milieu de gamme chez Apple, ça existe, c'est l'iPhone 5C.
Voilà.
Mais
il est un peu vieillissant.
Et il faut donner un petit coup de boost quand même.
Exactement.
C'est pas parce que c'est de l'entrée de gamme chez Apple qu'il faut que ce soit moins bien, en tout cas.
Exactement.
Que ce soit pas sexy.
Exactement. Donc cet iPhone 6C ce serait de l'entrée de gamme, mais aurait quand même la dernière version du processeur. Il aurait peut-être pas le même design, c'est-à-dire tout métal. Il aurait peut-être un dos en plastique, etc., etc. Donc ce serait, voilà, il réduirait un peu sur les coûts pour pouvoir proposer un iPhone qui serait un peu plus accessible. On sait qu'Apple va pas non plus faire des iPhones,
À 300 euros.
Ça nous étonnerait, effectivement.
Non.
Mais Mais en tout cas, voilà, il y aurait effectivement une nouvelle version de cet iPhone d'entrée de gamme très bientôt.
Bon, à suivre donc. Est-ce qu'on garderait aussi malgré tout la rentrée pour avoir de nouveaux iPhones ?
Eh ben oui, il est possible aussi qu'Apple, effectivement,
et l'iPhone 7,
et l'iPhone 7 arrive peut-être aussi un peu plus tôt, puisque on sait que voilà, il y a toujours cette course pour Apple de vendre toujours plus d'iPhones que l'année précédente. Enfin, ça a beaucoup marché cette année parce qu'il est arrivé en Chine, Apple. Mais l'année prochaine, il faut aussi qu'il puisse trouver des chiffres favorables, hein, toujours pour dire qu'il bat des records. Donc, il se pourrait aussi que l'iPhone 7 arrive plus tôt, un peu plus tôt cette année.
On va suivre ça de près. On va parler maintenant de Twitter. Peut-être l'avez-vous remarqué si vous êtes tout comme nous un utilisateur assidu de Twitter, suite à une mise à jour, hein, moi sur mon smartphone, sur mon iPhone, il y a une petite partie de Twitter qui a changé, et non des moindres, hein, quand même.
Et alors, ça fait énormément de buzz sur Internet. C'est peut-être l'un des sujets qui a beaucoup plus buzzé sur Twitter cette semaine. Twitter a tout simplement arrêté ses favoris, sa petite étoile qui vous permettait, en fait, de mettre un tweet en favori pour le remplacer par un cœur. Alors, ça peut paraître comme ça, un petit peu, ils ont remplacé une icône, si vous voulez.
C'est un peu cosmétique.
On pourrait dire que c'est cosmétique, mais ça a provoqué une pagaille sur Twitter. Les gens étaient pas contents. Ils étaient tellement habitués leur étoile que de l'avoir remplacée par un cœur, ça les a tous un petit peu perturbés. On a eu des dizaines et dizaines de gifs animés qui critiquaient cette décision. On a appelé ça carrément le favgate. La disparition du favori sur Twitter a provoqué énormément de réactions. Alors c'est vrai que on peut dire que c'est pas un gros changement, c'est juste changer une étoile par un cœur. Mais en fait, finalement, pour beaucoup de gens qui utilisaient Twitter au quotidien, ce favori, ça voulait pas dire forcément qu'on aimait, qu'on likait, hein, parce que c'est un like. C'est comme sur Facebook, Twitter, c'est un peu inspiré de Facebook. Qu'on likait ce tweet, ça voulait dire simplement qu'on voulait le garder quelque part en mémoire, pour s'en souvenir.
Enfin, cela dit, dans favori, il y a faveur. Enfin, je veux dire, il y a une notion positive
mais
qui n'est pas aussi forte qu'un like.
Qui n'est pas aussi forte qu'un like. Qui, par exemple, on pouvait très bien laisser garder en favori un tweet qu'on voulait conserver parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant, même si on n'était pas forcément d'accord. Alors que là, les gens, parfois, ont l'impression de dire j'adhère à ce propos parce que je le mets en like, ce qui a posé beaucoup de problèmes à certains utilisateurs assidus de Twitter, effectivement. Bon, après, la polémique s'estompe peu à peu. Là, ça y est, on est samedi. Les gens commencent à être passés à autre chose. Mais c'est quand même intéressant de voir. Ça a été un peu une grosse révolution, en tout cas sur Twitter. Enfin, en tout cas parmi les utilisateurs Twitter.
Forcément, quand on parle de Twitter, Facebook n'est pas trop loin.
Ouais.
Facebook qui a annoncé ses résultats financiers qui sont plutôt bons, mais qui a aussi annoncé des chiffres qui donnent le tournis.
Ils sont juste hallucinants, hein, parce que Facebook est tout simplement aujourd'hui utilisé quotidiennement par un humain sur sept, un habitant de la planète Terre sur sept aujourd'hui. Ouvre Facebook et va sur Facebook tous les jours.
C'est incroyable.
Donc c'est
un milliard.
Et plus, ils ont dépassé le milliard d'utilisateurs quotidiens sur leur plateforme. C'est un chiffre absolument dingue, hein, parce que Facebook est maintenant partout sur la planète. Hein. Il y a que quelques pays qui résistent encore, qui ont leur propre réseau social. Facebook fait, par exemple, aujourd'hui beaucoup de réunions en Chine pour développer son utilisation en Chine notamment. Mais c'est juste incroyable. Il n'y a pas que ça qui est incroyable. Il y a effectivement un milliard d'utilisateurs par jour, mais il y a aussi et surtout, et ça c'est un des grands relais de croissance pour Facebook aujourd'hui, il y a aujourd'hui sur Facebook 8 milliards de vidéos vues tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, 8 milliards de vidéos.
C'est incroyable.
Alors ouais, c'est assez dingue, c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est vrai que Facebook peut devenir un sérieux concurrent à des gens comme YouTube, par exemple, qui sont encore les leaders de la vidéo. Mmh. Mais Facebook fait très attention à la vidéo. Ils dopent cette fonction vidéo. Ils ont fait de l'autoplay aussi récemment, ce qui leur permet aussi de doper ce chiffre.
Hein, oui, évidemment. Voilà. Parce que c'est vrai que, je sais pas si vous êtes un utilisateur tout comme nous de Facebook, vous l'avez vu, il suffit de scroller pour que la vidéo parte.
La vidéo
mais parfois, on la regarde même pas. Donc, si on comptabilise, si Facebook comptabilise à chaque fois.
Bien sûr, elles sont comptabilisées.
Il faut prendre ce chiffre avec des pincettes.
C'est vrai. Mais n'empêche que c'est quand même énorme. Et ça va permettre à Facebook, évidemment, demain, de monétiser tout ça.
Parce que quand vous allez voir un annonceur et vous lui dites, écoute, Coco, je peux toucher 8 milliards de vues par jour.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. TF1 à côté, c'est une petite chaîne locale.
Oui, c'est sûr que là, on joue pas dans la même catégorie.
On joue pas dans la même catégorie. et on va terminer par, la communauté des amateurs de films piratés qui est un peu en émoi, quand même.
Ah oui, ils sont un petit, c'est pareil, sur Twitter, ça a beaucoup, beaucoup buzzé cette semaine sur ce sujet. et sur ZeroNet aussi d'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de réactions à ce sujet. Bah, on a appris cette semaine, que on en a parlé la semaine dernière, que c'est ce fameux service Popcorn Time qui permettait de pirater très facilement des films. Hein, c'était vraiment limite un scandale tellement c'était simple.
Oui, c'était comme un Netflix sans payer.
C'était
quoi.
Un Netflix sans payer avec tous les films en HD, etc., voilà, etc. Ce service, en tout cas, son principal fork a été fermé par les majors du cinéma américain.
Qui ont réussi malgré tout.
Qui ont retrouvé finalement la personne qui était notamment derrière Popcorn Time. Il s'était pas tout à fait caché, donc finalement.
C'était pas trop compliqué,
mais le problème, c'est qu'il avait lancé un service payant au sein même de Popcorn Time, et là ils se sont dit, mais on va l'avoir lui, parce que s'il se fait de l'argent sur notre dos, en plus,
ça sera encore plus facile.
Donc voilà, c'est un Québécois, ça s'est passé au Canada, et effectivement, le service Popcorn Time a disparu parce que cette personne, notamment, il y en avait d'autres sur la liste, mais notamment ce David Lemarié, s'est fait coincer, et voilà, on l'a obligé à arrêter le service, à arrêter le site, et donc. Voilà. Pour l'instant, c'est coincé. Et il n'y a pas que ça qui a été fermé par l'AMBA.
À mon avis, il va avoir une petite amende, non à payer.
Ça va être un peu compliqué pour lui, là. Je pense qu'il, oui. D'ailleurs, il a complètement disparu des réseaux sociaux. On ne sait pas où il est.
Je pense qu'il va regarder pas mal de films, mais en prison.
Ça va sans doute lui coûter cher, effectivement. Et donc, ils ont fermé ça. Ils ont fermé Popcorn Time, mais ils ont fermé aussi le robinet. Le robinet qui fournissait les films à Popcorn Time. Et ça, c'est encore plus embêtant pour les gens qui vous souhaitaient pirater. Ça s'appelait yst.to. Et ce service-là a été fermé aussi. Donc voilà. Et les gens qui étaient, eux, en Nouvelle-Zélande, eux aussi, on va avoir quelques petits problèmes avec la justice bientôt, je pense.
Voilà. Alors, est-ce que malgré tout, le service peut renaître de ses cendres?
Alors.
Probablement.
Alors, oui, il y a déjà des services qui ont repris le relais. Voilà. Mais ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Voilà. On ne sait pas d'ailleurs qui se cache derrière. Est-ce que c'est bien réglo? On va voir. Mais en tout cas, il y en a déjà d'autres qui ont repris le relais.
En tout cas, c'est un bon point pour les majors
Oui, ils sont félicites d'ailleurs.
Qui ont réussi un joli coup, là, malgré tout. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou.
Merci.
Rédacteur en chef donc du pôle actu de zeronet.com. L'atelier numérique se poursuit dans un instant avec entre autres le crash test d'Antoine et Lila Megrao aussi qui sera avec nous. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique, dernière ligne droite avant de se dire au revoir et de se retrouver bien sûr le week-end prochain. Dans quelques instants, ce sera le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, c'est l'alphabet du numérique. Vous savez, le nouveau rendez-vous proposé par Lila Megrawa. Et cette semaine, Lila, on va parler du drone.
Mais oui, François, le drone, ce vieux centenaire, ce sera le sujet de cet alphabet du numérique. On va revenir un peu sur l'historique du drone. Vous savez que pour beaucoup, le drone est cet objet volant qu'on va pouvoir piloter à partir de son smartphone ou sa tablette, sur lesquelles on va pouvoir suivre un peu ce qui se passe au moyen de caméras embarquées sur le drone. Mais figurez-vous, saviez pas qu'il s'agit tout simplement, Parrot n'a rien inventé, il s'agit tout simplement d'un modèle réduit de drone militaire. Alors pour revenir sur l'historique de ce drone qui a aujourd'hui près de 100 ans, je vais me faire l'écho de l'article, d'un excellent article que je vous invite à lire, paru sur Industrie et Technologie et qui a été rédigé par Jean-François Prévoureau. Alors Jean-François Prévoureau nous rappelle que le drone a bien une origine militaire et que cette invention remonterait à la Première Guerre mondiale. Alors apparemment, le tout premier à avoir conçu, imaginé un drone serait Archibald Low, un monsieur qui aurait lancé le fameux Aerial Target, qui serait une espèce de projet d'avion sans pilote, donc commandé à distance. Donc le tout premier drone a été imaginé par un British. Mais les Français ne sont pas en reste, puisqu'on a également, en 1917, on a le capitaine Max Boucher, qui réussit à faire voler pour la première fois, pareil, un avion sans pilote à bord sur un kilomètre. L'exploit impressionne tant Georges Clemenceau, était alors président de la commission sénatoriale de l'armée, que Georges Clemenceau lance en fait un concours d'avions sans pilote. C'est un peu comme
aujourd'hui, je sais pas si ça existe, mais j'imagine que oui, c'est comme si on lançait une espèce de d'hackathon du drone. Qu'est-ce qui pousse Georges Clemenceau à faire ça? L'idée derrière, c'est qu'à l'époque, et j'imagine et j'espère aujourd'hui encore, l'avion, on s'en fiche. En revanche, l'humain est important. Si on doit revenir, si on doit expliquer un peu l'origine du mot drone, en fait, on s'aperçoit que c'est tout simplement, c'est un emprunt à l'anglais drone qui signifie en bon français, le faux bourdon. Pourquoi le faux bourdon? Alors tout simplement, cette analogie provient à la fois de la lenteur et puis également du ronronnement émis par les tout premiers drones. Vous l'avez compris, le drone est bel et bien un vieux monsieur issu de l'armée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de faire sa mue et surtout de faire son entrée dans le grand monde.
Merci Lila. Et après Lila, place à Antoine pour le crash test et pour terminer cet atelier. Antoine, le point de départ de ce crash test est la journée du stress en Angleterre.
Oui, c'est...
Ils sont stressés, nos amis anglais.
Écoutez, d'abord, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert grâce à la culture numérique, parce qu'en fait, on est tous un peu en train de regarder ce qui fait ce qu'on appelle des trends sur Twitter.
Et oui.
Et...
Les
trend topics, eh bien, j'ai découvert que, bien que se déroulant en Grande-Bretagne, qui n'est donc pas, qui n'est pas le plus grand pays du monde, mais qui est un pays de langue anglaise, donc c'est vrai que ça diffuse quand même pas mal, eh bien, la National Stress Awareness Day, littéralement le jour national de la prise de conscience du stress,
d'accord,
fait le trending topic. En Angleterre.
Ah
et,
bon
et même dans le monde, ça se situe très très haut.
Tiens.
Il y a même eu des moments où dans les 5 sujets mondiaux, les 5 hashtags les
d'accord.
plus utilisés sur Twitter,
il y avait la journée,
il y
du,
avait
stress
la
en
journée du stress en Angleterre.
Eh bien, dites-moi.
Donc, alors, évidemment, derrière ça, il y a une belle opération de communication, mais quand même, ce qui est assez intéressant, c'est de voir tout ce qui en découle. Alors, bien entendu, cette journée du stress, donc qui était le 4 novembre, cette journée du stress donne lieu à des tas d'articles. Par exemple, vous avez Glamour Magazine UK, vous avez un tweet qui débouche sur un article. Ils disent, voilà, c'est la journée nationale du stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Donc, il y a des questions sur qu'est-ce qui vous stresse. Vous avez des articles qui... vous avez un article sur l'emploi d'un journal de professionnel, d'un journal de ressources humaines qui dit, voilà, si les 6 meilleur moyen de lutter contre le stress, et donc c'est aujourd'hui le journal de l'awareness, le jour de l'awareness du stress, donc tout le monde parle de ça. Il y a des tests partout pour savoir si vous êtes stressé. Il y a des gens qui fêtent Happy National Stress Awareness Day, donc il y en a qui présentent ça comme une fête. Il y a des gens qui se plaignent quand même, il y en a qui disent apparemment c'est la journée nationale du stress, mais figurez-vous que moi je suis tout à fait au courant de mon stress tous les jours, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a qui disent je suis au courant, je suis stressé. Donc ça déclenche des mouvements qui sont parfois des mouvements sympathiques et parfois des mouvements un peu plus énervés. Mais le fait est que tout le monde en parle en Angleterre, c'est vraiment le sujet majeur. Et donc toute personne qui a des pilules anti-stress, des recettes anti-stress, des articles anti-stress, je vous stresse pas trop là.
Ça va.
Toute personne.
Mais vous avez un visage jovial que vous me déstressez.
Voilà, j'essaye.
C'est vrai.
Mais donc voilà, c'est la journée des recettes anti-stress. Alors derrière ça, il y a une femme qui s'appelle Carol Spears.
Oui.
Et qui a lancé en 1999 ce National Stress Awareness Day. Au début, c'était une petite opération de com', parce que figurez-vous que Carol Spears, elle est consultante en management du stress.
D'accord.
Ben oui. Et donc, elle lance. Elle est maline. Et donc, elle lance cette journée du stress en 99. Et là, elle se dit, Bon, voilà, elle lance cette opération. Elle réussit à l'époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux.
Eh ben non.
Mais par contre, ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'était sensibiliser les politiques. Donc, elle commence au début des années 2000 à sensibiliser les politiques en allant les voir, en prenant un air très stressé.
Je suis stressé.
En leur disant, voilà, la journée du stress, c'est important. Savez-vous qu'il y a tant de gens par an qui souffrent du stress? Voilà, ce qui est d'ailleurs vrai. J'imagine qu'en Angleterre, les gens sont également assez stressés. Et chez nous, ils sont stressés, mais c'est pas du tout un mal français. Le stress, c'est un mal qui existe partout. Un mal où d'ailleurs, quand on est trop stressé, c'est pas bien, mais c'est quand même bien.
Oh, un petit stress, ça peut être un peu comme
régénérant. Voilà. Il faut quand même pas en abuser.
Ça booste.
Quoi.
Non.
Le stress, c'est comme le whisky, quoi.
Petite dose, ça va.
Voilà, on est d'accord.
On est d'accord.
Donc on a cette dame qui au début a convaincu les politiques. Et puis dans les années 2005-2008, elle a vu monter les réseaux sociaux et là elle a digitalisé la journée du stress, et donc c'est devenu aujourd'hui un phénomène tout à fait important dont tout le monde parle en Angleterre et dont on peut avoir vent si on n'est pas en Angleterre, puisque évidemment les réseaux sociaux, c'est international. Alors j'ai sélectionné quelques articles qui parlent de la journée du stress. Il y a par exemple dans le Daily Telegraph, donc c'est l'un des plus grands journaux anglais, il y a un grand article journée du stress. Enfin, c'est comme nous chez nous Noël, hein. Je veux dire, ils en font vraiment.
Bien sûr.
C'est la journée du stress, il y a des grands papiers. Donc le papier commence par Angleterre, vous êtes stressé. Ça, c'est un message qui est sorti d'une grande étude datant de 2013 qui montrait que sur 10 000 Britanniques, il y en a 44% qui sont stressés. Donc c'est quand
même énorme.
C'est énorme.
Voilà, oui.
Bon. Et donc il y a un quiz. Le quiz, c'est quel est votre niveau de stress? Donc vous avez un certain nombre de questions qui permettent d'évaluer votre niveau de stress. Il y a un certain nombre d'indications sur ce qui stresse ou ce qui ne stresse pas. Par exemple, savez-vous que les cyclistes sont 40% moins stressés que les autres personnes qui se déplacent d'un point à un autre pour aller travailler?
Tiens.
Voilà. Ah, parmi les commuters. Donc les commuters, c'est les gens qui commutent pour aller de chez eux à leur travail.
D'accord.
Qui utilisent les moyens de transport.
Et donc, il y a peut-être le fait de faire du sport déstresse. Alors, on peut imaginer que c'est ça
Oui, le fait peut-être que...
Parce que parfois, c'est stressant de faire du vélo en ville.
Alors, c'est stressant, c'est vrai. À Paris, je sais pas comment c'est à Londres, mais à Paris, ça
Paris, c'est un peu stressant.
Voilà, c'est un peu stressant. De temps en temps, quand on est piéton, il y a aussi quelques cyclistes qui sont un peu stressants avec les piétons.
Oui, c'est vrai.
Il faut tout de même le signaler. Je suppose que ça vient du fait que il y a moins.
De toute façon, c'est bien connu, le sport déstresse aussi. Hein.
Oui, mais c'est aussi le fait que il y a pas d'immobilité. C'est-à-dire que quand vous êtes à vélo, vous pouvez pas être arrêté par les encombrements, vous pouvez pas être arrêté par l'arrêt du métro.
Oui, vous êtes pas ennuyé par celui qui est devant, qui ne va pas assez vite.
Oui, ça c'est pas le métro. Hein. Le métro, de toute façon, vous n'allez pas le doubler.
Ça c'est sûr. Voilà. Je parlais des véhicules.
Voilà. Mais donc voilà. Et puis alors il y a des techniques sur comment baisser le stress. Donc vous pouvez marcher, vous pouvez aller faire une petite marche, apprendre à réévaluer les situations négatives, méditer. Enfin voilà, la réponse au stress, elle est essentiellement en vous. Quoi, comptez pas sur les autres.
Et l'atelier numérique?
Écoutez, l'atelier numérique.
Ça déstresse aussi.
C'est totalement.
Ah, de temps en temps, quand vous gloussez comme ça, ça déstresse instantanément.
J'imagine qu'il n'y a rien de plus déstressant.
Mon cher Antoine. Écoutez, j'espère qu'on vous a bien déstressé parce que l'atelier est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là le week-end prochain, bien sûr, le samedi, entre 16h et 18h. Portez-vous bien, à très vite.